Et maintenant, c'est l'heure des rendez-vous de midi sur Radio Circa.
Les rendez-vous du midi.
Rendez-vous de midi. 103.5.
Eh bien, bonjour à tous. Il est midi 05. Vous êtes toujours sur Radio Circa. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Léa et Fred pour toute l'émission et nous accueillons pour une émission spéciale cirque et musique, on va dire ça comme ça. En tout cas, on va se poser la question de processus de création sur un spectacle de cirque et comment on aborde la musique. Et nous sommes donc en compagnie de Vincent, de la compagnie Hors Piste, et puis de Johan, du groupe Le Trio d'en bas, qui accompagne Hors Piste sur scène en live. Vincent, bonjour. Johan, bonjour.
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 Merci d'abord de nous faire l'honneur de venir nous accompagner un petit moment. On sait que vous jouez ce soir et que vous avez aussi des impératifs. Donc merci à vous. On va peut-être y aller, commencer un petit peu cash. Hein.
Oui, bien en pas de temps.
Voilà. Donc peut-être une première question, tout simplement. Juste, comment est née la rencontre entre Hors Piste et le trio d'en bas?
Comment est née la... Bah, assez naturellement, par hasard et jamais par hasard. On est deux compagnies de l'Aude, de Carcassonne. Enfin, en tout cas, pour eux, nouvellement de Carcassonne, mais avec pas mal d'individus qui habitaient sur Carcassonne. Donc, la ville étant petite et les gens dynamiques et curieux étant pas si nombreux que ça, assez vite, nos chemins se sont croisés. On s'est aperçu qu'on avait pas mal de points communs sur des visions artistiques, sur des envies, des choses comme ça. Donc on a commencé à faire un premier test de rencontre sur un spectacle qui s'appelait Nom de code temps libre, qui était un spectacle de cirque et de musique. C'est un concert mouvementé basé sur l'improvisation, sur le principe de l'improvisation et de l'écriture dans l'improvisation. Et le feeling est vraiment bien passé. Et ensuite, moi, j'avais le projet de partir sur L'Orage et le cerf-volant, donc un spectacle issu et inspiré du Sacre du printemps, où la partition musicale était de toute façon très, très importante, puisque c'était vraiment un 50-50 entre chorégraphie et musique et orchestre limite symphonique. Et voilà, je trouvais ça intéressant pour eux aussi de leur proposer à des gens issus du jazz dans sa grande largesse, et pas forcément dans son côté étiquetage, de travailler sur une partition classique de Stravinsky et de voir quelle énergie ils pouvaient y mettre et ça a fonctionné.
Bon, et du coup, puisque tu parles du Sacre du printemps, est-ce que tu t'es quand même attaqué à quelque chose d'assez solide, parce que le Sacre du printemps, Stravinsky, plus toutes les adaptations qu'il y a eu sur scène dans les ballets classiques, ou Béjart qui a revisité aussi ce phénomène, est-ce que c'est pas un peu lourd à porter ou
C'est pas plus lourd que le Don Quichotte, hein, à vrai dire.
C'est vrai.
Et bien plus intéressant. Non, c'est lourd et pas lourd, en fait. Tout est vraiment relatif. Il y a une chose qui est très intéressante, c'est que effectivement, c'est une des pièces les plus reprises au monde. Je crois qu'il y a eu 253 reprises de ce spectacle. Et en même temps, la seule trace qu'il y ait de la version originale, c'est la musique de Stravinsky. Il n'y a aucune image, aucune photo, aucune vidéo de la version originale. Donc à partir de là, la partition est blanche. Il suffit de prendre tous les écrits et de travailler avec, travailler sur le principe des rituels, des rites païens et du sacrifice. Et donc on est complètement libre à travers quelque chose qui a été fait 253 fois, donc pourquoi pas 254. Finalement, c'est peut-être moins dur de reprendre quelque chose qui a été fait plein de fois que de s'atteler à une première reprise. En tout cas, moi, c'était une énergie que j'avais envie de faire un spectacle orienté, ou en tout cas réfléchi autour du regard de l'enfance, sur un thème pas forcément ludique. Parce que le monde de l'enfance n'est pas si bisounours que ça, et qu'ils sont bien plus violents que nous. Et je pense que c'est un thème qui leur va bien. Et moi, je suis passionné de cette musique-là, enfin, en l'occurrence du Sacre du printemps de Stravinsky, depuis que je suis petit. Alors, on va savoir pourquoi. C'est pas franchement une chose qu'on écoute quand on est petit, mais... Mais sa façon de composer cette musique-là, et Johan en parlera plus, voilà, je trouve qu'il a, pour moi, révolutionné un peu, limite la musique moderne avec ce tempo imbattable et ses temps glissés, ses énergies et ses dissonances. Enfin voilà, donc pour toutes ces raisons-là, non, c'était pas plus compliqué qu'un autre spectacle, sachant que tous les spectacles sont très compliqués à monter. En tout cas, c'était passionnant.
Et question évidemment, Ayon, on a envie de t'entendre sur Stravinsky, la manière dont vous avez travaillé le groupe, puisque vous êtes plus issu du jazz et de l'improvisation.
Donc c'est passé en plusieurs étapes. Une qui a été vraiment le décortiquage de l'œuvre. Parce que dans un premier temps, l'idée était de reprendre le sacre. Donc on a quand même travaillé pas loin de 6 semaines sur le sacre du printemps lui-même dans l'espoir de pouvoir le jouer. Et en fait, il s'avère que les droits, enfin, c'est réservé, donc on n'avait pas le droit de le jouer. Et donc là, à partir de là, on a dû composer une musique donc, qui est largement inspirée de ce que nous avons travaillé du sacre. Après, parler... plus précisément du sacre, ben c'est une œuvre majeure de la musique en règle générale. Quoi. Là, on s'est aperçu en décortiquant le sacre que, grosso modo, 90% de la musique du XXe siècle est issue de... vient de là. Quoi.
C'est-à-dire 90%, qu'est-ce que vous en avez retiré ? Qu'est-ce que...
des lignes mélodiques cachées au fond du sacre qui sont... des morceaux de rock, de pop, de blues, de... Ben voilà, il y a de tout, des bouts de chansons. Il y a plein de phrases et de cellules ont été repiquées dans tous les sens. Après, peut-être pas consciemment, mais c'est vraiment une des racines de la musique actuelle. Ouais. En puissance, c'est vraiment puissant, quoi.
Et du coup, tu parles que vous êtes d'abord attaqué à essayer de reprendre vraiment la partition, puis finalement vous avez basculé sur l'obligation entre guillemets, puisque il y avait cette histoire de droit de devoir réécrire en s'inspirant de ça. Et est-ce que vous avez du coup écrit vous de votre côté une adaptation, ou est-ce que vous avez écrit une adaptation tout en étant bienveillant et en regardant ce qui se passait sur le plateau ? Est-ce que vous avez été en connexion pendant la création avec ce qui se faisait sur le plateau, ou vous étiez dans votre coin ?
Tout le travail qu'on a fait sur le sacre s'est passé en amont du travail collectif. Toute la musique qui a été composée s'est passée pendant les créations collectives où nous étions sur scène à travailler et les acrobates étaient sur scène à travailler aussi. Après, ça s'est inspiré de... mais Vincent pourra en parler. La chronologie du sacre a été gardée. Enfin, ouais. Au niveau des temps, des cellules. Et donc, on avait ça comme point de départ pour composer. Et après, ayant travaillé sur le sacre, eh bien, on s'est aussi inspiré des dynamiques dans une moindre mesure. Quoi. Forcément, on n'y arrive pas à la cheville. Et... enfin, voilà, on a fait ce qu'on a pu. En même temps, on en est assez fiers de ce qu'on a réussi à faire, qui se tient sur une heure. Et voilà.
D'accord. Donc, il y a quand même eu vraiment un regard sur ce qui s'est passé sur le plateau.
C'était même encore plus simple que ça, j'ai tendance à dire. C'est qu'on avait tous, et eux à la musique, et nous au plateau, un regard sur l'œuvre originale. Donc, finalement, on était tous sur un autre point commun. Qui était, comme disait Johan, sur la composition même, sur les 9 parties des morceaux d'original, donc sur les tensions, sur les rythmiques, sur les couleurs qu'elles avaient. En parallèle de ça, moi j'avais aussi énormément travaillé sur les écrits, donc sur les couleurs des tableaux, sur ce qu'ils devaient raconter. Donc voilà, on s'est vraiment inspiré de ce qui était écrit et de la musique pour à chaque fois rentrer dans un univers, dans un tableau, et de passer de l'un à l'autre. Donc effectivement, soit sur le tempo, soit sur la puissance, soit sur le nombre d'instruments, soit sur la... Et puis nous, après, c'était sur le nombre de personnes, sur l'espace disponible, sur le côté rapide ou lent, sur le côté percussif ou non. Donc on a vraiment travaillé ensemble, et puis après effectivement, une fois qu'on avait les mêmes couleurs de base, eh ben on a essayé de trouver des teintes pastel autour de la couleur de base et qui nous initiaient encore plus musique et visuel. Donc voilà, ça a vraiment été un travail ensemble à partir de vraiment d'une base commune qui était une tierce œuvre.
D'accord, c'est intéressant parce que souvent, dans le spectacle vivant, et peut-être plus pour le cirque, je maîtrise moins la danse ou le théâtre, mais ça arrive souvent que la musique soit parfois écrite indépendamment, où le metteur en scène donne des directions de travail aux musiciens, aux compositeurs qui travaillent dans son coin et puis qui envoient des musiques et puis ça s'adapte ou pas à ce qui se passe sur scène.
Ouais, c'est vrai que souvent c'est ça. Moi, même dans le cirque, moi, depuis que je travaille plus sur hors piste, parce que c'est des chorégraphies qui sont vraiment qui sont moins collectives que quand j'étais avec Anomalie. Mais c'est vrai que souvent c'est des discussions qu'on a en amont, et puis après ils nous amènent de la matière, et nous on demande juste 20 secondes de plus ou 20 secondes de moins, et de manière d'ailleurs assez distante, limite sur la musique, en disant c'est facile de vous rajouter 20 secondes, alors que pour eux ils ont travaillé pendant 2 mois et le morceau se tient exactement en 2043, et si tu en le demandes en 3 minutes, et ça marche plus du tout. Alors que là c'est complètement différent, encore une fois, parce que l'œuvre incite à travailler ensemble. C'est vraiment un duo d'il y a 100 ans, aujourd'hui d'ailleurs, dans quelques semaines, entre Nijinsky et Stravinsky, quoi. Avec la même dualité qu'ils avaient eue, où on ne sait toujours pas qui est le père de l'œuvre. Est-ce que c'est Nijinsky? Est-ce que c'est Stravinsky? En finalité, on se rend compte que c'est Roy Rich, le scénographe, qui avait amené tout le synopsis à Stravinsky, qui lui-même l'a amené à une... Enfin voilà, il y a une histoire de paternité de l'œuvre qui est pas encore résolue, avec toutes les effets people d'il y a 100 ans, donc qui sont pas tout à fait les mêmes, mais qui étaient déjà dans la même tranche. Donc là, on était dans l'obligation, puisque le propos de départ était de s'attaquer à cette œuvre-là, de manière très personnelle, mais quand même à cette œuvre-là. Donc voilà, moi j'ai essayé de reprendre le processus de création qu'ils avaient eu, de la même manière que, par exemple, nous on a commencé par travailler le final. Donc le dernier tableau, l'élection, l'élu, enfin le final du spectacle, parce que dans tous les écrits qu'on voit marqués, que ce soit pour la musique ou pour l'image, le spectacle c'est une déchronologie, en fait. Ils avaient construit la fin et au fur et à mesure ils étaient allés jusqu'à un début, parce que c'était ils voulaient vraiment travailler la résolution avant de travailler la suite, et nous on a essayé de faire pareil aussi. Donc voilà, moi j'ai essayé de, à notre manière, avec 100 ans d'écart, évidemment, avec la culture, la politique et les voyages et tout ce qu'on connaît de ce siècle, d'essayer quand même de m'inspirer en même temps du spectacle final et en même temps de comment il a été construit, quels ont été leur système, pour comprendre aussi pourquoi ils en sont arrivés à une œuvre majeure qui a été l'œuvre la plus critiquée au moment de sa sortie, avec bon, alors en même temps c'est là où je dis qu'on n'est pas encore pas très loin de ce qui se passe maintenant, parce qu'ils avaient organisé l'humiliation pour créer le scandale et pour pouvoir dire que la partie du peuple n'aimait pas, du coup ça sera intéressant, sauf que c'est allé bien plus loin que ce qu'ils avaient prévu.
Et donc, c'est une mise en scène des premières représentations, ouais, c'est ça?
C'est ça, au Théâtre des Champs-Élysées, le spectacle, le théâtre qui avait été construit pour cette œuvre-là, le manager de l'époque avait organisé une sorte de contre-salle qui était là pour huer, pour dire que c'était insupportable, justement pour pouvoir donner la place au peuple, dire non, c'est vachement bien, c'est révolutionnaire. Et sauf que bon voilà, il s'avère que c'est allé bien plus loin que c'était, et ça a créé le scandale, ça a été la honte et le spectacle qu'il ne fallait pas voir. Sauf que un mois plus tard ils ont joué à Londres et c'était le succès, et l'année d'après ils ont joué juste la musique, c'était encore plus le succès, et puis voilà, on sait où ça en est maintenant, et c'est le spectacle le plus vu et le plus joué au monde, quoi. Donc voilà, c'était à peu près le même système qu'un petit festival de cirque comme le nôtre, quoi, où ton spectacle n'est pas forcément bien vu, et puis l'année d'après, tout le monde dit « Ouais, j'étais là-bas, c'était vachement bien. » Donc voilà, c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est qu'ils ont révolutionné un petit peu la chose sans vraiment vouloir le faire, et puis nous, à chaque création, finalement, dans le nouveau cirque... Nous on cherche à aller un petit peu plus loin que ce qu'on sait faire et ce qu'on aime faire, et c'est pas non plus dans l'optique de révolutionner obligatoirement, mais c'est de se bousculer nous-mêmes. Donc il se pratique une mini révolution à chaque spectacle, donc je pense que c'était pour moi le moment de jouer avec ce feu là.
Bien, c'est super intéressant, en tout cas, comme procédé de s'attaquer non pas juste à l'œuvre, mais à son ensemble, comment elle a traversé ce siècle et comment elle est née aussi. Donc je trouve ça très intéressant. Peut-être Johan, je me tourne vers toi, vous avez écrit une partition, en même temps vous êtes des musiciens de jazz, dans le jazz il y a beaucoup d'improvisation, est-ce qu'il y a une part d'improvisation durant le spectacle ou est-ce que vous êtes vraiment dans une partition écrite et vous vous en tenez à ça?
Déjà le fait d'écrire une partition pour la totalité du spectacle, déjà c'était une première pour nous. Parce qu'on on a une pratique de la relation musique et autres arts, danse, cirque, vidéo, peinture, qui se fait plutôt sur l'instantané. Donc c'est plutôt de l'ordre de la performance. Là, c'était vraiment un pari pour nous d'écrire une musique sur la globalité du spectacle. Après, est-ce qu'on a réussi à mettre de l'improvisation dedans? C'est oui, il y a des passages. Il y a des passages où il y a de la possibilité de liberté d'interprétation. On a une liberté d'interprétation sur la totalité de l'œuvre. Mais c'est pas au même sens que. Comment dire? Non, c'est pas la même improvisation que dont on a l'habitude. Ouais. C'est beaucoup plus régenté que.
Et sur quelle base justement elle peut se faire cette improvisation? Parce que c'est dans le fait d'interagir aussi avec les acteurs. Donc du coup c'est quoi? C'est sur le tempo. C'est à quel moment que vous pouvez essayer de vous.
Globalement c'est pas sur les tempos. C'est presque plus subtil que ça. C'est plus sur jouer avoir un peu de fantaisie mais c'est vraiment très léger, c'est vraiment infime. Il y a une partie qui est vraiment improvisée, on va dire, c'est au niveau des lions quand je fais je me retrouve tout seul avec ma batterie, mais sinon après c'est vraiment énormément écrit quoi.
Ouais.
Mais c'est là où on se rejoint, et c'était la proposition pour le trio, c'était de dire que c'est de la musique vivante, comme un spectacle vivant. Donc même si c'est une partition écrite, et c'est vraiment le propos et le défi que je leur avais lancé, c'est de dire qu'une musique écrite peut être aussi vivante que de l'improvisation. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous les jours, si on fait un parallèle avec nous, acteurs de cirque, on n'a pas tous les jours la même énergie, on n'a pas tous les jours la même stabilité, ce qui ne nous empêche pas de faire à peu près la même partition tous les jours, mais d'avoir des pas qui sont plus longs ou plus courts, des envols sont plus hauts ou plus bas, des fluides bien plus intéressants. Et c'est pareil pour la musique, c'est pour ça que c'est plus subtil d'avoir une énergie différente sur une globalité, et même à la limite qu'eux s'en rendent pas compte, que ce soit les gens qui leur disent « Ah, aujourd'hui, c'était vraiment pas pareil ». Et sur la musique écrite, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement elle peut respirer autant que si on change complètement la partition. Je pense que l'éventail de possibilités de micro-changements sur une partition écrite est pour moi au moins aussi grande que sur un endroit où c'est ouvertement écrit que c'est de l'improvisation. Et c'est plus sensible et beaucoup plus important de pouvoir laisser respirer quelque chose d'écrit. Enfin, moi, c'est vraiment mon propos sur ce spectacle-là. Après, sur temps libre, évidemment, le propos était de surtout ne jamais rentrer dans des choses qu'on avait déjà faites. Mais sur celui-ci, voilà, c'est comment faire respirer quelque chose qui, a priori, très, très, très écrit. Et pareil pour nous, au niveau des déplacements, au niveau des chorégraphies, c'est des chorégraphies très simples. Parce que aussi, c'était l'œuvre de Stravinsky qui avait été décriée pour ça. Parce que voilà, c'était l'un des plus grands danseurs, Nijinsky. Un des plus grands danseurs, les plus élégants qu'on ait jamais eu, et avait fait que des chorégraphies très très simples, avec des bras cassés, avec des grands costumes donc voilà. Et en même temps, c'était d'une vie monstrueuse. Donc voilà, j'avais envie qu'on soit sur le même terrain pour ça, et qu'il n'y ait pas un décalage de liberté, mais que la liberté elle soit dans la sensibilité. Et ils ont bien réussi ce genre de choses.
Et alors, en plus de la musique, vous avez aussi introduit des créations sonores. Pour quelle raison? Je ne sais pas de qui est venue l'initiative, si c'est de toi Vincent ou plus des musiciens, trio d'en bas.
Je ne sais plus trop la genèse de ça, mais encore une fois, dans l'œuvre originale du Sacre du Printemps, il y a deux introductions, il y a deux parties, c'est vraiment deux tableaux complètement différents. Et sur les deux tableaux, dans l'œuvre originale, il n'y a pas de mouvement sur les deux intros. Donc moi je m'étais dit tiens, on peut prendre ce principe là et de rajouter des intros virtuelles et en rajoutant un mouvement différent. Donc à chaque fois là c'est Stéphane le comédien qui traverse l'époque, le siècle grâce à ça. Et puis c'était pour mettre en rapport la mémoire de Stravinsky, les deux bandes son réalisées, les deux mouvements sonores réalisés sont à partir des interviews de Stravinsky, donc où il raconte qu'il a été passionné, voire torturé par cette œuvre de sa création jusqu'à sa mort, parce qu'on se rend compte que finalement après le Sacre du Printemps, il a passé sa vie à reconstruire cette œuvre et il a pas fait d'œuvre majeure juste derrière. Il s'est vraiment enfermé pour l'arranger. En vraiment stipulant que personne n'avait le droit de la jouer autrement que ce qu'il avait écrit, sauf que lui, à chaque fois qu'il a joué, il l'a déconstruisé complètement. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il a. Et moi, j'avais aussi envie de mettre ça sur scène, comme disait, parler de l'œuvre globale et de tous ces petits travers, quoi, de ce que ça peut fasciner. Et voilà. Et puis je pour aussi libérer les musiciens, parce qu'au départ, j'avais vraiment envie qu'ils soient sur scène avec nous. Puis c'était assez compliqué.
Ouais, j'allais te poser cette question. Oui.
Ouais, c'était vraiment compliqué parce que l'art du mouvement, c'est l'art du mouvement, et puis c'était pas forcément les mettre dans un endroit qui était très agréable pour eux. Moi, j'avais pas forcément le temps, l'énergie et voire les capacités de rassembler sur peu de temps des gens qui avaient pas forcément pratiqué le déplacement sur scène et des choses comme ça. Donc à un moment donné, c'était pas forcément mettre eux dans un endroit de confort, de plaisir. Du coup, nous mettre nous et d'avoir un résultat sans prendre vraiment le temps. Et puis voilà, ils ont vraiment eu besoin de travailler énormément sur la musique parce qu'ils ont fait un boulot monstrueux. Nous aussi. Et à un moment donné, vaut mieux faire un tout petit peu moins, beaucoup mieux que beaucoup plus en étant à la limite. Cette œuvre n'accepte pas la limite. On doit être prêt. Prêt à donner un peu plus que ce qu'on croit et on n'aurait pas fait. Donc, pour toutes ces raisons-là, et au final, ça donne un décalage qui n'est pas inintéressant, quoi. Le côté électrique du son avec le côté mécanique des instruments, quoi.
On va écouter un petit extrait du Sacre du Printemps, un tout petit extrait pour se le mettre dans l'oreille pour nos auditeurs. Voilà, le temps que ça se cale. Et donc, je rappelle que la musique du spectacle a été écrite par le trio Damba, un trio donc composé de 4 musiciens. Peut-être que tu peux parler juste de présenter un petit peu l'histoire rapidement de ce trio.
Ouais, donc du coup, dans le trio, on est vraiment 3. Mm-hmm. Et on fait appel à des. On a fait appel à Tony pour nous aider sur cette création. Parce que, donc, comme postulat de base de jouer le Sacre du Printemps, qui est joué par au minimum une trentaine de musiciens. On s'est dit qu'à 3, ça allait faire beaucoup de travail pour chacun. Donc à 4, déjà, ça allait
mieux.
Ouais, ça allait être mieux. Et du coup, à la base du trio, il y a donc moi, Johan, Arnaud et Sam. Et Tony qui nous aide sur cette créa et sur d'autres projets.
Ouais. D'accord. Et donc vous avez vous avez rejoint la compagnie un peu le temps de cette création, mais vous tournez aussi tous les trois.
Ouais. En fait, donc on a une compagnie qui s'appelle la compagnie Trio d'Amba. Donc le noyau, c'est nous trois. On fait des concerts jazz, musique improvisée. On tourne, on va dire nationalement, internationalement, et à partir de ce noyau, on a des projets différents, un projet de bal. Voilà, une création musique et texte avec une comédienne. On participe à des projets avec la compagnie Arpiste, Nancode et L'Orage. Voilà, et puis d'autres aventures.
D'accord, ouvert en tout cas aux autres propositions que musicales.
Nous, en fait, ouvert à la rencontre en général. Mm-hmm. Nous, notre trio, il est vraiment ouvert sur le reste de l'univers des arts. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir jouer tous les trois et en même temps de pouvoir rencontrer d'autres arts et de pouvoir revenir tous les trois et de pouvoir rencontrer d'autres personnes. Et voilà.
Donc tous les trois, vous êtes donc attaqués au Sacre du Printemps. On écoute donc un petit extrait du Sacre du Printemps de Stravinsky.
Voilà donc un petit extrait du Sacre du printemps de Stravinsky. En l'occurrence, c'était un extrait de la partition finale. Johan, peut-être tu peux nous dire en quelques mots comment de cet extrait-là vous êtes arrivé à votre partition. Comment vous avez fait pour adapter quelque chose qui vous appartient et qui soit pas, comme le disait Vincent, en aparté pendant le morceau du plagiat, quoi.
Mais concrètement, on a écouté, réécouté le morceau. On a découpé le morceau en les temps. On a noté tout sur une feuille, tout le déroulement de l'œuvre, les moments qui étaient forts, doucement, doux, puissants, tout ça. Et à partir de là, on a cherché chacun à se répartir des bouts. Parce que c'est vraiment une écriture collective qu'on a fait. Donc, y en a un qui a écrit un bout, un autre, et du coup on a assemblé. On a été forcé de revoir l'orchestration, parce que du coup là c'est violon, cuivre. Oui. Il y en a des kilomètres, des kilos, et nous, c'est piano, guitare, trombone, sax, flûte, clarinette basse, sax, percu, vibraphone, c'est ça nos instruments. On s'est vite rendu compte aussi, ça c'est valable pour la partie finale, mais pour d'autres parties, que pour pouvoir rétablir une masse sonore, on était obligé de... Enfin, on n'était pas obligé, mais nous, on a fait le choix de se servir de boucles d'enregistrement pour vraiment recréer
une dynamique d'orchestre.
Une dynamique d'orchestre, une puissance, quoi. Et du coup, voilà, que dire de plus sur cette partie. C'est beaucoup moins complexe dans la construction que ce que Stravinsky a fait à la base. Mm. Parce qu'on a fait plus efficace.
Si je comprends bien, en tout cas, tu parles du rythme, des nuances. Donc, et j'imagine que c'est peut-être sur l'ensemble de la partition que vous avez créé comme ça. Vous vous êtes pas attaché, entre guillemets, je vais pas dire de bêtises, à la mélodie, mais vous êtes attaché plus au rythme de la partition de Stravinsky.
Ce qui ressort du sacre, c'est pas une mélodie ou deux, c'est oui, vraiment c'est une multitude de mélodies, oui. une multitude d'ambiances et une dynamique, mais vraiment énorme, entre du presque rien et de limite de l'agression, quoi.
Et Vincent, toi, t'avais des idées précises de ce que tu voulais que la musique soit, notamment par rapport à la partition originale que, me semble-t-il, tu connais bien. Du coup, est-ce que toi-même, t'avais des attentes précises, tu savais ce que tu voulais retrouver dans la partition?
Précise, non. En début de création, vaut mieux pas avoir d'attentes trop précises, parce que sinon t'as des déceptions qui sont aussi précises que tes attentes. Non, je savais que à qui j'avais affaire aussi, et que à partir du moment où tu donnes la confiance à quelqu'un sur un projet, le mieux c'est de le laisser vraiment aller où il veut. Sinon, c'est autant le faire tout seul. Après, on a tellement travaillé ensemble et on en avait tellement parlé aussi que de toute façon, on est allé dans le même univers. On a eu la même déception du fait de ne pas pouvoir reprendre la musique originale. Donc à partir de là, voilà, on s'est attelé à dire bon, qu'est-ce qu'il en reste de tout ce travail qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'on en ressort? Est-ce qu'on en ressort effectivement les micro-mélodies ou la puissance et la dissonance et ces choses-là? Donc voilà, et comme le propos était de vraiment réellement respecter l'œuvre avec leur talent et leur capacité, ils sont allés à l'endroit où j'avais espéré, voire un peu plus loin même. Déception passée, et maintenant rétrospectivement, je pense que c'était une bonne chose que de ne pas pouvoir reprendre l'œuvre, parce qu'ils sont allés à exactement ce que j'avais envie, c'est-à-dire de redire la même chose avec un siècle d'écart, et je pense qu'ils sont arrivés. Alors effectivement, c'est pas la même complexité que Stravinsky, c'est pas la même folie, mais peut-être qu'on est libre d'être moins fou en ce moment. Donc voilà, c'est vraiment inscrit dans une temporalité actuelle, et avec quand même une sacrée différence avec tout ce qu'on peut écouter en musique de spectacle, parce que la complexité sur une musique si riche que celle-ci, c'est laisser la place à l'image, parce qu'une musique de spectacle, elle est vraiment pas composée comme une musique de concert ou des choses comme ça. Il faut pouvoir laisser la place au mouvement et à l'image, et la difficulté était là-dedans, et là ils ont quand même réussi, avec une partition très chargée, d'avoir en tout cas dans le travail qu'on a fait ensemble, de pouvoir trouver l'équilibre image et puissance musicale. Donc voilà, il y a des équilibres à faire tous les jours sur s'il suffit très peu pour avoir un déséquilibre sur une histoire de volume, sur une histoire de choses comme ça, où d'un coup la musique passe devant ou le visuel passe devant. C'est quand même assez sensible tous les soirs, mais quand même de manière constructive l'équilibre est fait. Après, c'est réajusté tous les jours, quoi. Mais sinon, pour revenir à l'envie de départ, c'était l'envie de propositions à quatre individus, de leur dire allez-y les gars, quoi, faites-vous plaisir.
Et Vincent, tu viens de mentionner la différence entre une musique pour un spectacle et une musique qui serait pour du concert. Johan, vous sentez-vous, vous avez vraiment travaillé différemment entre autour de l'orage et le cerf-volant, plutôt que quand vous jouez, disons, sur une avec la formation pour des concerts. Quelle différence il y a dans votre travail?
Mais déjà, on a amené des instruments qu'on n'avait jamais amenés jusque-là sur scène.
Par exemple,
j'avais jamais sorti le vibra de chez moi. et Et on n'avait jamais fait un travail sur la dynamique comme ça, vraiment, enfin, sur des boucles vraiment chargées, enfin, avec pas mal de morceaux d'écriture, de phrases dessus, et de sonorités différentes, pour après rejouer par-dessus. Là, c'était vraiment un travail tout nouveau pour nous. Il y a quelque chose que je voulais dire que j'ai oublié.
Par rapport aux nouveaux instruments, peut-être que c'était à ce moment-là sur le choix d'amener la différence par rapport au concert.
En fait aussi, quand on a commencé à travailler sur le sacre, à la base du projet, c'était qu'on fasse la musique du spectacle, mais pas forcément qu'on fasse beaucoup de représentations. Donc du coup, on a commencé à travailler, tout ça, et après est arrivé le fait que beaucoup de programmateurs étaient intéressés par le fait qu'on joue directement sur scène. Et donc du coup, ça a été une contrainte nouvelle qu'il a fallu prendre en compte, parce que rejouer la musique qu'on allait écrire, il fallait. Et voilà, c'était pas simplement enregistrer quelque chose, il fallait être capable de pouvoir le rejouer. Mmh. Et du coup, ça a été une contrainte quand même pas mal, parce que on change pas mal d'instruments, il y a beaucoup de sonorités, c'est vivant. Donc après, dans la relation écriture entre nous, ce qu'on a écrit, ta question de départ, c'était
c'était la différence avec le concert, du coup. Mais c'est, tu y réponds, du coup, puisque ça montre la manière dont spécifiquement vous avez travaillé dans cette collaboration.
Ouais. Oui, nous, on n'a jamais travaillé comme ça pour quelconque concert qu'on fait.
Et par exemple, justement, en concert, est-ce que vous avez une trame qui est moins précise et moins écrite? Vous vous permettez éventuellement de...
Oui, nous, c'est beaucoup plus libre. Ouais. On a des morceaux qui sont structurés, mais qu'on peut restructurer indéfiniment. Enfin voilà, en tout cas, la porte est ouverte tout le temps à ce qui peut se passer, à l'initiative de chacun, voilà, à ce qui se passe, ce qu'on a instauré comme relation avec le public, voilà, tout est possible avec nous, dans les concerts du Trio d'Amba, en tout cas.
Et il y a un autre aspect là qui, à mon avis, est lié avec la musique et qui fait l'unité avec le reste du spectacle. C'est cette notion de couleur, puisque on rentre dans le spectacle avec des couleurs qui donnent le ton. Enfin, je l'ai repris comme ça. Comment, Vincent, vous avez travaillé spécifiquement sur ce jeu de lumière là, notamment au début? Est-ce que là c'était lié à la musique, en fait?
Non, voilà. Tout est lié à une autre chose, une grosse envie. L'envie de départ, c'était vraiment de travailler un spectacle autour du regard de l'enfance. Donc pas forcément faire un spectacle jeune public, mais essayer de faire un spectacle qui soit alors rythmique. Donc qui soit un spectacle tout public, voire adulte, mais rythmiquement fait pour les enfants, au niveau des temps de concentration, au niveau des compréhensions. Et c'est vrai que le travail de lumière a été un des facteurs de recherche, parce que c'est beaucoup plus facile à un enfant de comprendre que le tableau a changé en changeant des couleurs, et du coup lui donner une autre concentration, comme une respiration pour lui. Il est prêt à accepter autre chose, et du coup on s'en est servi après avec le créateur lumière pour pouvoir en jouer et travailler quelque chose pour l'adulte aussi, justement s'amener cette luminosité, ce côté mystérieux. Donc voilà, c'était vraiment à travers le thème de départ qui était le comment faire un spectacle, comment réfléchir à un spectacle pour l'enfant, et en parlant des mêmes choses que pour les adultes, parce que pour moi, être dans cette situation là avec des enfants qui ont entre 8 et 11 ans, je me rends compte vraiment qu'ils comprennent exactement la même chose que nous. Et qu'il faut arrêter de croire que les enfants sont des enfants, quoi. Ils sont simplement beaucoup plus libres que nous, et simplement nous, au fur et à mesure, on se structure et on perd tout ça, mais on gagne rien en devenant adulte. On perd de plus en plus de choses, et c'est pour moi la seule différence en ce moment, parce qu'ils ont au moins autant de pertinence que nous, au moins autant d'imagination. Et ils ont l'instinct qui est là et l'intellect qui est juste un peu derrière, et c'est bien plus intéressant. Et donc voilà, c'est cette confrontation là entre l'intellect et l'instinct qui m'intéressait, et effectivement le travail de la lumière a été un des facteurs intéressants pour être sur l'hybridation, quoi, justement de la compréhension, où c'est quelque chose de poétique, voire mystique pour les adultes, et puis quelque chose de pédagogique pour les enfants, mais finalement ça sert pour tout le monde.
Ouais, j'ai même, enfin, je te rejoins complètement sur la notion de la vision des enfants, enfin, pour être aussi acrobate et créer des spectacles, notamment notre dernier spectacle qui est plutôt de nature assez sombre, donc qui a fait peur à beaucoup de gens dans la profession vis-à-vis du jeune public, enfin des enfants, et on s'est rendu compte que il y a plus d'adultes qui ne saisissent pas ce qu'on veut exprimer par peur de, je sais pas, ou qui sont inquiets pour leurs enfants, alors que les enfants prennent ça de plein fouet avec joie, et que souvent ils ont une lecture très claire de ce qu'on a voulu proposer. Et du coup, ça vous est arrivé de faire des séances en scolaire ou pas, et quelles sont les réactions un peu des enfants justement?
Oui, on a joué énormément en scolaire. On a fait au moins autant de scolaire que de tout public. Bon, pour la version scolaire, par contre, on a une version un petit peu plus courte. Là, le spectacle fait 1h03, 1h04, et en scolaire, on est à 42, 43. D'abord pour prendre conscience de leur journée, quoi. Faut savoir que quand les enfants viennent voir un spectacle, ils ont eu 4 heures de cours le matin, ils sont allés à la cantine, ils ont pris un bus. Donc voilà, leur temps de concentration, ils peuvent pas faire 1 heure, donc c'est ridicule de forcer, parce qu'à un moment donné, ils sont plus concentrés, donc c'est violent pour eux, c'est violent pour nous. Mais les réactions du jeune public sont instinctives, sont bien plus franches, bien plus agréables pour nous, hein, sans dénigrer l'adulte, évidemment, on n'est pas là pour faire le procès de l'adulte, mais voilà, c'est les mêmes réactions que les adultes en multiplié par 3 ou 4. La seule différence, c'est que les enfants sentent quand t'es pas dedans, et tu peux pas leur mentir. Un adulte, il suffit de rajouter de l'énergie et de faire bien les choses, et puis finalement il se dit ouais, il y avait du bon rythme dans ce spectacle. Un enfant, quand t'es pas dedans, quand il voit que ton œil il va pas jusqu'à lui, t'as beau être super précis, t'as beau être dans les temps, il décroche. Et ça nous a vraiment bien formé pour affronter les spectacles tout public, parce que là du coup on est vraiment obligé d'être activement dedans, et pas dans la partition, dans l'âme de la partition, et dans l'instant, quoi. Et c'est la différence, effectivement, c'est ce qu'on cherche tout le temps, mais ce que des fois avec les années, et on a tendance à oublier un tout petit peu, se contenter de bien faire son travail. Et effectivement, c'est un boulot, c'est un travail, mais faut pas oublier pourquoi on l'a fait, pourquoi on s'est inscrit dans cette démarche là et c'est pour la flamme qu'on a à l'intérieur, et la flamme, il faut essayer, j'ai bien essayé de l'avoir tous les soirs, quoi, pour que chaque fois on traverse un moment qui est magique. Et ça, pour moi, l'enfant et les scolaires m'ont vraiment fait réfléchir. Voilà, parce que aussi, comme disait Marc, les années, elles passent, quoi. On est plutôt sur une deuxième partie, voire sur une troisième presque partie de carrière. Quand on arrive sur un festival comme ça et qu'on voit tous les jeunes qui ont entre 15 et 20 ans et que nous, on en a 37, 38, on est encore content de faire la même chose qu'eux, un peu différemment, évidemment, avec un peu plus de temps d'échauffement et d'étirement. Mais voilà, la flamme est toujours là. Et voilà, moi, ce spectacle m'a redonné envie. J'étais sur un endroit où je me posais pas mal de questions sur mes capacités physique et passionnel de continuer ce métier-là, et ça m'a redonné envie de travailler pour pouvoir être libre, être disponible pour faire ce que j'ai envie devant les gens et pour moi aussi, quoi. Donc voilà, l'enfant m'a permis ça.
Et du coup, oui, c'est marrant, tu dis ça, c'est une anecdote, parce que j'ai discuté hier soir avec Sébastien, qui est sur le plateau avec vous. Il nous racontait ça, que hier après le spectacle, vous avez eu plusieurs personnes qui sont venues et qui lui ont dit, enfin en tout cas lui et Annick, ah, ça fait plaisir de voir des vieux comme vous qui se la donnent encore comme des jeunes. Et alors c'est assez terrible d'avoir entre 35 et 40 ans et d'être considéré comme des vieux. Et le festival, il provoque relativement ça, puisqu'il y a énormément de jeunes. Enfin, c'est un autre rapport au temps et à l'âge, finalement.
Tu le prends comme un compliment, mais ça fait un petit peu mal au moral quand même.
Ben, oui.
Ouais, faut savoir que voilà, n'importe quel sportif de haut niveau à notre âge, il est à la retraite, quoi. Et on a exactement la même dépense énergétique et physique et traumatique. Donc voilà, sauf qu'on n'a pas la possibilité. Et à la limite, c'est très bien, parce que ça nous permet de continuer notre passion, alors que eux, puisqu'ils sont financièrement tranquilles, bah, ils sont misérables à ne plus pouvoir faire leur passion pour laquelle ils étaient motivés depuis 20 ans. Nous, on peut encore, on doit encore, et continuons le plus longtemps possible, quoi.
Mais je voulais vous remercier, je crois, parce qu'on a passé presque une heure avec vous. Vous rejouez ce soir, vous laissez respirer avant ce soir vous jouez à 20h30, c'est ça, et vous rejouez demain à 14h.
Non, je pense que vous jouez à 17h30, je crois.
Non, je crois que c'est effectivement 20h30 et 14h30.
Ah, c'est ça. Donc
ce qui réduit les temps de récupération pour l'âge, on en parlait tout à l'heure.
Ouais.
C'est pas forcément très bon, mais on va le faire. Hein.
Donc c'est ça, c'est bien ce soir à 20h30 et demain soir à 14h30, et ça se passe au chapiteau.
Sur le chapiteau orange à côté du Mouzon.
Voilà, exactement. Voilà,
chapiteau de la compagnie AOC. On les remercie d'ailleurs. Bien fort. Bon, il pleut un peu sur le chapiteau quand il pleut, mais sinon ça va. Il est quand même très très agréable à jouer. Le rapport public scène est assez fantastique. Quoi.
Merci à vous deux. Merci Johan. Merci Vincent.